sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et aujourd'hui, dans le magazine du midi, nous sommes avec le docteur Emmanuel Pierre-Anthony pour parler des actualités en cet automne 2025 de la Fondation Edith Seltzer, des nouveautés qui concernent la prise en charge des personnes en situation de handicap. Alors, on le disait, il y a deux mesures phares qui ont été mises en place en cette rentrée. Et vous, Emmanuel, vous avez été un acteur important. Quelle a été votre place dans cette, à la fois à l'ouverture de ce centre Andy Consult 05, c'est bien ça, et de la signature de la charte Romain Jacob?
Alors, dans le cadre du dispositif Andy Consult, j'étais tout simplement le pilote de ce projet parce que ça fait partie d'une partie de mes fonctions au sein de la Fondation Edith Seltzer, avec le service projet qui est en accompagnement sur tous ces aspects-là au sein de la Fondation. C'est moi qui ai monté le dossier initial qui a permis de répondre à ce qui était plus précisément une appel à manifestation d'intérêt lancé par l'Agence régionale de santé. Il s'agissait de monter un dossier de faisabilité par rapport à un cahier des charges techniques qui était imposé sur le projet de création d'un centre Andy Consult dans les Hautes-Alpes.
D'accord. Et donc là, c'est vous qui avez donc été pilote, et vous le disiez, et on reviendra plus précisément sur ce projet-là. Et concernant donc la charte, vous avez aussi été très impliqué?
Alors la charte, ça n'est pas que moi qui étais impliqué, c'est l'ensemble de la Fondation, et plus précisément la signature de cette charte. C'est une initiative qui a été impulsée par notre directeur, M. Jean-Luc Dalmas, qui par son réseau connaissait, on va dire pour simplifier, le référent PACA de la charte Romain Jacob, qui est le directeur de la clinique Bonneveine. Il se trouve que la clinique Bonneveine, située à Marseille, est l'établissement Andy Consult, le premier établissement Andy Consult qui a été créé en région PACA.
D'accord, voilà. Donc il y a un lien fort aussi entre ces deux événements. Alors vous êtes donc impliqué parce que c'était un sujet qui vous intéressait, c'est dans le cadre de vos fonctions?
Alors bien sûr c'est dans le cadre de mes fonctions, mais c'est un sujet qui me concerne. Quand je dis me concerne, je représente l'ensemble de la Fondation. S'engager plus encore auprès des personnes en situation de handicap, on est complètement au cœur de la mission de la Fondation Edith Seltzer, hein, qui n'en finit pas de vieillir. Hein. J'ai l'habitude de dire que c'est une vieille dame là, qui a fêté ses 90 ans l'année dernière, qui n'a eu de cesse depuis sa création de s'engager auprès des personnes vulnérables, parmi lesquelles les personnes en situation de handicap. Pas que, mais entre autres aussi.
D'accord. Et donc, en cette rentrée, vous avez eu ces nouveautés. Pourquoi, à ce moment-là, il y a eu cette volonté de s'engager plus envers ce public-là en particulier ?
Alors, c'est avant tout, comme j'ai expliqué en préambule, une démarche à laquelle on répond et qui fait écho à un besoin identifié par nos politiques de santé et en particulier par notre organisme de tutelle, l'Agence régionale de santé, qui a conscience dans notre grande feuille de route régionale qu'on appelle le plan régional de santé, que dans la démarche souhaitée d'améliorer la qualité de l'accès aux soins et l'égalité de l'accès aux soins, il y a des disparités intra-régionales et interdépartementales. Voilà. Concernant les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de structure dédiée ni dans les Alpes de Haute-Provence, ni dans les Hautes-Alpes, alors que des structures existent, comme je dis tout à l'heure, pour la plus ancienne, c'est dans les Bouches-du-Rhône à Marseille depuis 10 ans. Donc les autorités de santé, l'Agence régionale de santé PACA, lance cet appel à projet, auquel tout simplement nous répondons. Donc voilà, c'est simplement une coïncidence calendaire qui fait que on se dit, mais oui, bien sûr, s'il y a bien une structure qui doit répondre à cet appel à projet, c'est bien la Fondation Edith Seltzer.
D'accord, donc c'était l'occasion là de pouvoir développer ces projets-là.
Tout à fait, et de réaffirmer un engagement que l'on avait déjà pris au travers d'autres structures que l'on avait ouvert historiquement, le SAMSA, on pourra revenir dessus, le foyer d'accueil médicalisé, le foyer de vie. Ça fait déjà 20 ans que la Fondation elle est engagée auprès des personnes en situation de handicap.
Alors justement, vous dites que c'était un besoin, mais quel est l'existant déjà? Qu'est-ce qui est déjà présent?
Alors l'existant, c'est pas grand-chose en fait. L'existant, c'est un constat, et on reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure sur les chiffres parce qu'ils sont assez éloquents en la matière. Et le constat, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 2000 personnes identifiées en situation de handicap, en tout cas qui ont un handicap déclaré auprès de l'assurance maladie. C'est à peu près 2/3 d'adultes et un tiers d'enfants, 1200 et 650,
si mes souvenirs sont bons.
Sur le département. Et pour ces personnes, en fait, qui pour certaines ont des handicaps lourds, fussent-ils moteurs ou psychiques, eh bien, pour une partie de ces personnes, le fait de souffrir d'un handicap représente en soi une limite pour accéder aux soins. Voilà. Pour tout un tas de raisons, c'est une partie de ces personnes-là ne peuvent accéder, ne serait-ce qu'à des soins fondamentaux, avoir un médecin traitant, recourir à des soins en urgence, avoir des suivis de pathologie au long cours, sachant que c'est déjà des personnes qui sont par essence plus vulnérables, qui sont souvent porteurs de plusieurs pathologies, qui sont parfois susceptibles plus que la population générale d'avoir besoin soins médicaux renforcés.
Et alors pourquoi? Pourquoi y a-t-il cette difficulté?
Eh bien, je vais partir d'un exemple, en fait, pour vous illustrer cette problématique. On va partir l'exemple, par exemple, des troubles neurodéveloppementaux et d'un sujet qui est connu, ça parlera à tout le monde, c'est celui de l'autisme. Quand vous avez, par exemple, un enfant qui est autiste, il va avoir des manières de communiquer et d'interagir avec l'environnement qui ne sont pas conventionnelles. Ça veut dire que mettre cet enfant autiste, ne serait-ce que dans une salle de consultation, attendre 10 minutes, voir une porte qui s'ouvre avec un praticien de santé, un médecin, un dentiste, une infirmière, un psychologue qui a, je ne sais pas, par exemple, une blouse, qui va le recevoir dans un local avec une table, un bureau de chaise. Eh bien, tout ça, ça peut représenter un frein, ça peut mettre le patient en difficulté. Qu'est-ce qui va se passer? Le soin va s'interrompre il va chercher à aller consulter éventuellement dans un autre endroit qui serait peut-être plus adapté pour l'accueillir. Un endroit, deux endroits, trois endroits. Qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est qu'à la fin, le soin n'a pas pu avoir lieu. Le soin a pu avoir lieu, mais pour partie. Et à un moment, par épuisement, que ce soit le patient, mais aussi ses aidants, parce qu'on va en parler, c'est très important, pour certains d'entre eux, encore une fois, renoncer tout simplement aux soins.
Voilà. Oui, donc il y a un vrai enjeu.
Oui, tout à fait. Tout ça, c'est simplement le constat que les structures d'accueil des patients ne sont pas forcément adaptées pour tous les handicaps. Et quand je parle d'accès, c'est pas simplement un accès PMR. En fait, on se rend compte que c'est pas la problématique de l'accès des personnes à mobilité réduite qui pose un souci. Je crois qu'il y a des personnes en situation de handicap qui déclarent ne pas accéder aux soins pour des raisons d'accessibilité physique et architecturale. Le problème, il n'est pas là. C'est vraiment l'ergonomie de la structure et peut-être aussi la sensibilisation des soignants à l'accueil de ces publics particuliers.
Est-ce qu'il y a des données juste sur ces personnes-là qui pourraient renoncer aux soins?
Oui, les données, elles nous viennent de la charte Romain Jacob et de l'association qui chapeaute cette charte. Hein, c'est une association 1901, c'est l'association didactique qui nous dit que c'est des données très fraîches. Hein, je les ai sorties ce matin au troisième trimestre en France en 2025. 27% des répondants, donc c'est des personnes qui ont cherché à accéder à un moment à un soin au niveau national, n'ont pas pu accéder à des soins en raison de leur handicap. Si on prend les données de la région PACA, on est comme au national à 26%, mais si on fait un focus sur les Hautes-Alpes, on monte à 35%. Ça veut dire qu'une personne sur trois qui est en situation de handicap ne peut accéder à des soins pour tout un tas de raisons. Parce que refus, parce que abandon, parce qu'on a refusé les accompagnants, voilà, ou tout simplement, vous voyez, dans les Hautes-Alpes, c'est 73% d'entre eux, des personnes en situation de handicap, n'ont pas de médecin traitant identifié. Ah oui. Trois quarts de ces patients n'ont pas réussi à trouver un médecin traitant.
C'est un chiffre important, effectivement.
C'est monumental.
Et alors, donc, cet établissement, le Centre de Santé Handiconsulte 05, vise à pallier à ce problème. Quelle différence, alors, y a-t-il dans ce centre par rapport à un autre ?
La différence par rapport à un centre de santé, de se dire que le centre ne doit pas être adapté pour dispenser un soin, il doit être adapté aux personnes qui vont consulter à l'intérieur du centre. Quand vous rentrez au sein d'Handiconsulte, vous allez avoir des locaux que je qualifierais de conventionnels. Hein. On a par exemple des soins dentaires et on est obligé d'avoir un fauteuil dentaire. Et là, on peut pas déroger. On a besoin d'avoir cet aspect-là. Bon, même s'il est tout rose hein, et que au plafond, quand même, vous allez trouver un écran de télévision. C'est pas pour le plaisir de projeter des films. C'est simplement pour détourner l'attention parce qu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui marche parfois pour quelqu'un qui a des difficultés, surtout du point de vue psychique. Et psychologique, vous lui mettez une tablette avec un film, un dessin animé, d'ailleurs ça marche pour tous les enfants, et bien le fait de détourner l'attention permet de ne pas se focaliser sur l'angoisse du soin. Mais quand vous sortez de ces locaux-là, vous allez trouver une salle, vous allez rentrer sur la droite et vous avez une salle, on appelle ça une salle snozélène, où on va pouvoir faire des soins de toute nature, médicaux et paramédicaux, et dans cette salle vous allez trouver des poufs, parce qu'en fait, on va pas faire les soins sur une table d'examen conventionnelle. Vous allez trouver des étoiles au plafond, si c'est nécessaire, qu'on allumera si le patient en a besoin. Mais si d'autres patients ont besoin qu'on projette un kaléidoscope de lumière sur les murs en multicolore, on le fera. S'il a besoin qu'on se mette dans une salle blanche, parce que la lumière l'angoisse, on pourra voilà, changer les ambiances s'il faut qu'on le mette dans une couverture enveloppante, s'il faut qu'on mette une ambiance musicale, s'il faut qu'on mette une ambiance sensorielle, olfactive, on en a la possibilité. Voilà. Donc on va pouvoir modifier la sensorialité, si je peux me permettre l'expression, de la salle, de manière à ce qu'elle soit adaptée au handicap de la personne que l'on accueille et à ses besoins.
D'accord.
C'est de l'icebreaking en fait, tout oui. Simplement, on parle de simple management de temps en temps pour que en fait, on se retrouve dans un écosystème qui soit propice à installer, c'est le stade d'après la relation de soins, et cette relation de soins, si elle doit prendre 10 séances d'accompagnement, on peut se permettre de le faire, c'est ce qu'on appelle des consultations blanches, parfois réaliser un soin, c'est peut-être montrer le praticien qui va le faire une fois ou deux, lui expliquer, faire de l'approche, c'est peut-être montrer les instruments, expliquer, etc., etc., jusqu'à in fine, peut-être réussir à faire le soin.
D'accord. Et le personnel médical, alors, est formé aussi à ce type d'accueil-là ?
Oui, tout à fait. Quand on a... c'est moi qui ai participé au recrutement de l'équipe, en tout cas sur son modèle initial. Et il y avait deux choses qui étaient... il y avait une chose qui était absolument essentielle. C'était que les gens aient une sensibilité pour la mission. Si aujourd'hui des personnes en situation de handicap ont du mal à accéder à une offre de soins conventionnelle, c'est aussi pour partie parce que une partie des professionnels de santé, je suis pas là pour stigmatiser qui que ce soit, mais on est là pour se dire des vérités, et c'est de ce constat que part un dispositif comme le nôtre. Une partie des professionnels de santé n'ont pas la sensibilité pour les personnes en situation de handicap, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'aussi ils n'ont pas été formés. Voilà, c'est aussi un plaidoyer pour la formation. Et ces personnes-là, je voulais déjà qu'elles aient la sensibilité de se dire on fait une mission qui n'est pas conventionnelle, il y aura de l'échec, il y aura des difficultés, et après, s'il s'agit d'apporter des éléments de formation supplémentaires, il n'y a pas de problème, on le fera. Voilà, et c'est bien évidemment ce qui est prévu, ce qui est en cours. Il y a un plan de formation qui est actuellement déployé.
D'accord, il n'y a pas de formation préalable.
Non, alors.
Ces questions-là, alors.
Non, mais il se trouve qu'une partie des personnes que l'on avait recrutées avaient déjà une expérience dans le champ du handicap avec des formations préalables. On n'arrive pas à exercer ce métier complètement par hasard. C'est des gens qui ont été acculturés et à un moment ou un autre, ils ont tourné autour de des personnes en situation de handicap.
Et alors, concrètement, il y a quoi comme corps de métier dans ce centre ?
Alors, on va partir de l'appel à projet. L'appel à projet, il nous disait, il faut deux personnes parmi les cinq que je vous cite, un médecin généraliste, un dentiste, une sage-femme ou une gynécologue, un ORL pour les yeux, excusez-moi, pour les oreilles, et un ophtalmo pour les yeux. On a eu la chance de trouver tous ces praticiens. Alors, certains vont travailler sur site, d'autres vont travailler en conventionnement. Mais nous, on a poussé le bouchon un peu plus loin et dans le département, il y a une trentaine d'établissements, 31 si je ne m'abuse, qui accueillent des établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et on allait les voir et on allait leur poser la question de « Et si demain, vous aviez une carte blanche, pourriez-vous nous dire quels seraient vos besoins ? De quoi avez-vous besoin ?» Et il est ressorti qu'il y avait des besoins en psychologue, en psychiatre, en orthophoniste, en cardiologue, en gastro-entérologue. Vous voyez, la liste, elle est énorme. On est en train de recruter une psychiatre en plus, on est en train de recruter une psychologue, on est en train de recruter une orthophoniste, donc on va bien au-delà de l'appel à projet pour essayer d'avoir... On est là pour parcourir le dernier kilomètre de l'égalité des soins sur le segment du handicap, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun trou dans la raquette.
Et ce sont des personnes qui seraient alors sur place ou comme vous disiez...
Tout est possible. Et je reviens sur la nécessité originale, pour peu que l'on trouve une personne qui a la sensibilité, je l'ai dit en réunion de travail, je préfère avoir un psychiatre en visio qui travaille à Brest, mais qui va pouvoir interfacer avec les patients. Évidemment, c'est pas l'idéal, on n'a pas de système en visio, mais je préfère trouver quelqu'un à distance qui va faire le job et qui va y mettre tout son cœur, que tout simplement de ne rien proposer ou de trouver quelqu'un le plus près qui n'aurait pas la sensibilité. Ça ne marchera pas. Voilà.
Et pour les patients ou les aidants, est-ce qu'il y a des différences de démarche là-dedans ? Alors, ça peut impliquer de venir plusieurs fois pour finalement arriver à un soin. Qu'est-ce que ça implique pour les patients ?
Je suis désolé, j'ai pas bien compris votre question.
Vous faites bien de demander. Je veux dire, est-ce que aller dans ce type de centre qui peut demander une prise en charge parfois plus longue, est-ce que ça change en termes de démarche pour les patients, peut-être même de démarche de mutualité, de prix, de temps, enfin de temps oui, puisqu'il faut venir plusieurs fois, mais
absolument pas. Il y a deux configurations. Soit le patient a déjà un médecin traitant et a déjà un parcours, enfin un tissu de soins identifié avec des référents, et il va lui manquer une expertise. Il a besoin qu'on lui fasse des lunettes et effectivement, ça va pas être possible dans un cabinet conventionnel. Donc là, on va aller répondre techniquement aux besoins. Ça n'empêche pas qu'on mette en place notre parcours de soins très spécifique. L'autre possibilité, c'est un patient qui est, voilà, comme on le disait, là, trois quarts de nos patients qui n'ont pas de médecin traitant, et on peut faire office de médecin traitant et on reprend le travail à la base, on va recevoir le patient, on va faire un bilan de santé avec notre médecin généraliste, et là on va commencer à lister les besoins. Voilà, et pourquoi pas, si c'est nécessaire, on en a tout à fait la possibilité, devenir le médecin traitant référent de ce patient. Les tarifs, c'est des tarifs sécu, conventionnels, il y a pas dépassement. Pour le patient, c'est transparent, en fait, c'est comme s'il s'adressait à un cabinet de médecine générale ou à un cabinet de médecine spécialisée ou un cabinet dentaire lambda.
Très bien. Eh bien, merci. Je vous propose, avant de parler de la charte, la fameuse charte, on va d'abord faire une petite pause musicale et on écoute Massive Attack Teardrop.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
C'est Nathalie.
À la bonne heure, le Mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et alors, nous sommes avec le docteur Emmanuel Pierre-Anthony, médecin addictologue et conseiller médical à la Fondation Edith Salzer, pour parler des dispositifs mis en place en cette rentrée 2025 pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Alors, nous avons parlé de ce nouveau centre de santé Handiconsult 05. Il y a aussi eu la signature de la charte Romain Jacob, donc signée le 1er octobre 2025. Quelle est cette charte ? C'est quoi cette charte Romain Jacob, Emmanuel ?
La charte Romain Jacob, c'est une initiative lancée par Pascal Jacob, le père de Romain Jacob, qui était lui-même en situation de handicap. Et Pascal Jacob a rendu un rapport ministériel à l'époque de Marisol Touraine, qui était alors ministre de la Santé et des Affaires Sociales, sur l'accès aux soins en santé. C'était en 2013. Et j'écourte toute l'histoire de cette charte, mais quelques années plus tard, des professionnels du milieu du handicap et des personnes en situation de handicap rédigent une charte qui impose un accès au droit commun pour les personnes en situation de handicap. Voilà, autour de 12 recommandations, il y a quelques valeurs cardinales que sont l'accès aux soins, la promotion de l'accès aux soins, la promotion de l'accessibilité, de l'accès à l'emploi, l'accompagnement des aidants qui est absolument essentiel, ce sont souvent les oubliés dans ces dispositifs, et la notion d'accompagnement inconditionnel, quel que soit le handicap, que les personnes en situation de handicap puissent accéder aux mêmes droits que n'importe quel citoyen.
Et qui signe cette charte ? Des établissements de santé uniquement ?
Alors, pas que des établissements. La présidence de la République a signé cette charte, les conseils ordinaux, la Croix-Rouge française, l'assurance maladie. C'est 7 000 signataires qui l'ont signé en France, 3 000 à l'international. Ça a été signé dans 13 pays. Et les signataires, ils s'engagent autour de 4 valeurs. Hein. C'est celui de la promotion de la fédération, la nécessité d'avoir des structures collaborative et de promouvoir la sensibilisation particularité de l'accueil des personnes en situation de handicap, et à souligner l'urgence d'apporter des réponses concrètes, c'est ce que l'on fait avec Handiconsult, en s'engageant à diffuser les initiatives qui ont été essayées et qui ont abouti en la matière.
Donc de la communication aussi. Et donc, pour vous, à la Fondation Edith Salzer, est-ce que ça implique la mise en place de certains dispositifs, des changements de pratiques concrètement ?
Alors pas tant que ça finalement, parce que on a une filière handicap historique comme je l'ai dit tout à l'heure, et je parlerai plutôt que d'une adaptation, je parlerai plutôt d'une continuité et d'un ancrage dans une de nos missions historiques. Hein. Il faut pas oublier que Edith Salzer, hein, c'est cette jeune fille décédée à l'âge de 21 ans d'une trisomie 21 qui a donné ce sont ces deux sœurs qui ont créé la fondation, étaient elles-mêmes en situation de handicap. Donc, on est au cœur de notre mission. Mmh. Voilà. C'est une tentacule supplémentaire, mais dans une expertise. Et c'est justement le fait que nous détenions déjà historiquement cette expertise qui nous a permis d'asseoir notre légitimité. Parce que vouloir répondre à un appel à projet, c'est une chose. Encore faut-il en avoir la capacité de le déployer, et puis la capacité d'analyser de manière prospective les besoins.
Et pour cette charte, est-ce qu'il y a des prérequis demandés pour avoir droit à la signer ?
Non, c'est surtout l'envie de vouloir s'y engager.
D'accord. Et donc, pour vous, cette envie, elle s'est concrétisée le 1er octobre. Comment ça s'est passé, cette signature ?
C'était un moment extrêmement émouvant. Pascal Jacob, qui toute sa vie n'était pas du tout dans le milieu de la santé, je crois qu'il était dans le milieu de l'industrie, s'engage corps et âme pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, bien sûr, parce que il connaît le handicap au sein de sa famille, au travers de la perte de son fils, il connaît la douleur du handicap dans sa chair, et n'a de cesse de promouvoir jusqu'au plus haut niveau de l'État la notion d'accès aux soins. Donc il nous raconte en fait cette histoire avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'humilité, et son engagement, mais voilà, c'est 13 pays, hein, ça va de l'Égypte au Canada quand même, c'est pas complètement anodin, qui s'engage sur ce dénominateur commun, sur cette charte qui paraît très simple, et qui pourtant part d'un état des lieux qui est relativement catastrophique. Et j'ai cité tout à l'heure des données nationales. C'est l'association didactique qui met en place cet indicateur qu'on appelle Handifaction. Tout le monde peut le consulter sur internet et qui permet de prendre conscience de l'ampleur de l'amélioration de l'accès aux soins, en dépit des disparités actuellement constatées, depuis la création de cette charte. Donc ça a marché, à force d'en parler, plus on en parle, il y a un moment, un phénomène, une réaction en chaîne qui fait que la sensibilisation augmente, le nombre de structures se développe, et on avance plus encore chaque jour pour l'accès aux soins en situation de handicap. On en est la preuve vivante aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres peut-être alors ?
Alors je disais, hein, 27% des répondants qui n'ont pu accéder aux soins, c'est surtout des personnes en situation de handicap moteur et psychique, hein, qui n'arrivent pas à accéder aux soins. C'est souvent des personnes qui vivent dans leur milieu ordinaire, dans les structures médico-sociales, il y a un accès aux soins qui est facilité, parce qu'il y a souvent des professionnels de santé qui sont conventionnés. Sans surprise, c'est souvent chez les médecins, les dentistes aussi. Hein, je dis ça parce qu'il y a énormément de besoins dentaires qui nous sont de besoins de soins dentaires qui nous sont demandés depuis qu'on a ouvert le dispositif. Donc c'est dans les hôpitaux, dans les services de soins, mais aussi dans les services d'urgence, dans les cabinets de médecine générale et de médecine spécialisée, que on voit le plus de refus de soins. Pour des personnes en situation de handicap.
D'accord. Et donc, ici, dans le département, on espère que grâce à ce nouveau centre de santé HandiConsult 05, la situation puisse s'améliorer. Peut-être pour finir cette émission, ça fait un mois à peu près hein, que vous avez ouvert. Quel est le bilan, si l'on peut dire ?
Tout à fait. On a ouvert on a ouvert à la mi-octobre. Alors on n'est pas dans nos locaux définitifs, on finit les travaux d'aménagement. On est juste à côté, on est à 200 mètres, place de la cathédrale à Gap. Des demandes, on s'en doutait un peu hein, sur les soins dentaires. Les personnes en situation de handicap, elles allaient à Marseille hein, pour faire des soins dentaires. Ouais. Mmh. Alors quand vous allez à Marseille et que finalement, au bout de 5 minutes, ça s'arrête parce que c'est une consultation blanche, comme on en a parlé tout à l'heure, bah, ça fait une journée longue pour tout le monde, ouais. Hein, à commencer par le patient lui-même. Donc des demandes en soins dentaires, des demandes en soins gynécologiques. Notre sage-femme a commencé à travailler d'emblée. Et puis petit à petit, la liste s'étoffe. Sur toutes les spécialités qu'on représente, médecine générale, orthophonie, psychologie, ophtalmo, voilà. Sachant qu'on fait des consultations sur site et qu'on fait aussi deux fois par semaine des consultations, on appelle ça de l'aller vers. On se déplace, alors pas auprès de tous les domiciles, on n'en a pas la puissance de feu malheureusement, on aimerait bien mais c'est pas possible, mais auprès des structures médico-sociales, on a même une mallette de soins dentaires mobile d'ailleurs qu'on traîne avec deux petits trous, qui permet d'aller faire des soins sur site.
Sur quel territoire ? Le Gapençais ou même tout le département ?
Tout le département.
Tout le département.
Tout le département. Et on n'exclut pas un jour de pouvoir ouvrir des antennes à Briançon. Notre fondation, notre quartier général est ici. On a déjà un centre de santé dans le sud du département. Pourquoi pas ? On verra selon les besoins. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le 05, le Nord 04, historiquement, consomme des soins dans notre département. Donc, l'Ubaï, tout le secteur du Laragnais a plutôt tendance à venir dans notre département. Donc on cible une population quand même de 3000 personnes aujourd'hui, ce qui est largement conséquent.
Oui, effectivement. Et ce qui peut amener effectivement à avoir besoin de se développer.
Oui, tout à fait.
Plus en avant. Eh bien, peut-être pour finir, les informations pratiques autour de ce centre, de ces soins en général.
Géographiquement, on est situé rue de Grenette. J'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est le 4 rue de Grenette. Donc, c'est entre la prison et la cathédrale à Gap, pour ceux qui connaissent. Toutes les modalités pour nous joindre se trouvent sur le il suffit de taper Andy Consulte 05. On tombe sur le site de la Fondation Edith Selzer. On a une page qui est très bien faite. On accède au centre avec un numéro de téléphone. On a une secrétaire qui est présente sur site et qui, c'est peut-être la particularité, va réaliser un questionnaire neurosensoriel pour que l'on comprenne le handicap. Comprendre le handicap de manière préalable nous permet de nous adapter au moment même où la personne arrive. Voilà. Il faut simplement indiquer que tout au long du parcours de soins, il y a des psychomotriciennes qui vont accompagner le patient, même si on va à l'extérieur, sur des consultation partenariale, la psychomote va accompagner le patient et adapter tout son environnement pour que les choses se passent au mieux en fonction de ses besoins.
Eh bien, merci Emmanuel Pierre-Anthony. Donc, on le rappelle, Andy Consult 05, ça vient d'ouvrir. C'est aussi présent partout dans la région. En tout cas, dans le sud de la région, vous le disiez, il y a déjà des centres puisqu'on nous entend jusqu'à Marseille en ce moment. Donc, ce sont des centres. Ils s'appellent tous Andy Consult.
Andy Consult 13, Andy Consult 83, tout à fait. Il n'y avait que dans le 04 et le 05 qui l'en manquait. Et sur les Alpes de Haute-Provence, il y a un établissement qui, je ne vais pas donner la réponse à la question, on est encore au stade de l'appel à projet, qui va probablement déployer un centre. On les rencontre demain d'ailleurs pour en parler. Tout ça s'inscrit dans une logique partenariale et de coopération territoriale. C'est extrêmement important pour nous.
Donc une affaire à suivre. Merci beaucoup Emmanuel Pierre-Anthony et merci à vous auditeurs et auditrices. On se quitte sur une dernière musique. Bonne journée à toutes et tous.
Merci Marion, à bientôt.